Un chrétien peut-il croire dans la réincarnation? C'est-à-dire qu'après la mort, notre âme puisse aller revivre dans un autre corps, a priori plutôt dans une autre personne humaine. Eh bien, je crois que bien des chrétiens se passent très volontiers de ma permission d'ailleurs, puisque des statistiques montrent qu'en France, 25% des gens croient à la réincarnation, c'est-à-dire une personne sur quatre, ce qui est évidemment tout à fait considérable. Alors ça pose, il est vrai, bien des questions, parce que normalement la réincarnation, ce n'est pas la doctrine habituelle du christianisme. On trouve ça très largement répandu dans la pensée de l'Inde et aussi dans la pensée grecque, la pensée orphique du temps de Pythagore, de Socrate et des autres, mais dans le christianisme, c'est plutôt rare. Qu'en penser? Je dirais dans un premier temps que c'est, après tout, déjà un bon point de départ, parce que croire dans la réincarnation, c'est quand même quelque chose d'assez positif, en un sens. C'est de comprendre que notre vie ne peut pas se limiter qu'à sa dimension purement animale, d'aujourd'hui et maintenant, et que notre vie a quelque chose qui, je dirais, qui déborde la dimension purement physique de notre être. Mais néanmoins, je pense personnellement que c'est une mauvaise manière d'envisager l'éternité ou d'envisager cette dimension spirituelle qu'est la nôtre. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors me direz-vous, pourquoi est-ce que, avant tout, cette doctrine a tant de succès? Eh bien, je crois que c'est essentiellement parce qu'il y a là quelque chose de rassurant. Et que beaucoup de gens qui disent être attirés par la réincarnation disent qu'ils le sont parce que, finalement, ça les rassure de penser qu'ils ont une deuxième chance. Ou que même s'ils ont un peu raté leur vie ici-bas, eh bien, au moins, ils pourront peut-être la réussir mieux une deuxième fois. Il y a là un phénomène qui est un petit peu comme ceux des jeux vidéo qu'ont les enfants. On joue, on a une vie, bon, c'est pas grave, si on a raté sa vie, on peut en prendre une autre. Et donc, on a finalement une chance de se rattraper. Alors que si on n'a qu'une seule vie, et qu'en plus, il faut la réussir, j'avoue que c'est angoissant quand on est jeune, et désespérant quand on est vieux, et qu'on se rend compte qu'on n'a certainement pas tout fait très bien. Mais néanmoins, je pense que il faut se méfier quand même avant d'adhérer trop vite à ce genre de choses. Parce que oui, je dirais au premier abord, cela peut sembler rassurant, mais je crois que beaucoup de gens sont prêts à croire en cela sans trop réfléchir aux conséquences, c'est-à-dire aux tenants et aux aboutissants de ce type de doctrine, et sans réfléchir à la cohérence globale de leur système. Il faut voir que de croire dans la réincarnation, c'est finalement, ça n'est pas quelque chose de neutre, que ça suppose d'avoir une certaine conception de la vie, de l'existence, de l'âme, de le rôle de Dieu, une certaine conception même du salut, c'est-à-dire que la réincarnation, c'est une doctrine qui touche à tous les points essentiels du christianisme. Et je crois qu'on ne peut pas faire absolument n'importe quoi avec une doctrine, en quelque sorte. Oui, il y a beaucoup de manières d'envisager la vie éternelle, il y a une certaine diversité, mais si on commence à proclamer la réincarnation, il va falloir changer beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et parce que, je dirais, le système chrétien en lui-même est cohérent, et que le système hindou ou bouddhiste est cohérent, mais mélanger les deux, ce n'est pas forcément évident, et cela ne peut pas se faire aussi simplement que cela. Alors cela dit, dans l'histoire, la thèse de la réincarnation a parfois été associée au christianisme. On trouve par exemple dans les pères de l'Église saint Origène, qui lui-même croyait dans la préexistence des âmes et dans la réincarnation. Bon, il croyait dans d'autres choses d'ailleurs, parce qu'il prétendait que les âmes pouvaient aussi aller s'exiler dans les objets, dans les planètes, dans la lune et le soleil. Et donc saint Origène, pendant qu'il y était, disait que la lune était une âme beaucoup moins brillante que celle du soleil, donc c'était quelqu'un qui sûrement était moins brillant à la base. Enfin bon, donc voilà, ça vous donne quelques idées de ce que cela peut donner. Et puis il y avait aussi un grand mouvement chrétien qui a professé la réincarnation, qui étaient les cathares. Alors les cathares sont très sympathiques aux protestants parce que les protestants s'identifient un petit peu à cette minorité persécutée par l'Église officielle, mais néanmoins, il faut savoir que les cathares, c'était quand même des gens très particuliers. Non seulement ils croyaient dans la réincarnation, mais aussi dans ce que l'on appelle la métempsychose, c'est-à-dire qu'une âme peut aussi se réincarner dans un végétal, dans un animal, si elle n'a pas été suffisamment bonne au cours de sa vie terrestre, en quelque sorte. Et ce qui fait que pour les cathares, tout ce qui comptait, c'était la pureté de l'esprit. Et il y avait une sorte de rejet, donc du corps, parce que pour eux, comme pour tous les gens pratiquement qui professent la réincarnation, il y a une dévalorisation du corps, en considérant que la réincarnation, c'est plutôt quelque chose de nocif, de néfaste, de douloureux, et que le but, c'est d'échapper enfin au cycle des réincarnations. Et donc pour les cathares, ils croyaient que les âmes pures et spirituelles tombaient dans des corps et que ça c'était une catastrophe sans nom, et que par conséquent il fallait d'abord éviter de manger de la viande parce qu'on risquait de remanger son arrière-grand-mère en quelque sorte, qui aurait pu se réincarner dans un animal, qu'il fallait aussi évidemment éviter de procréer parce que lorsque vous faites un enfant, eh bien, si vous croyez dans la réincarnation, vous vous dites, voilà, je vais de nouveau emprisonner une âme dans un corps et ça va être pour elle très difficile de s'en sortir. Et donc les cathares de haut grade, dirais-je, n'avaient évidemment pas le droit de se reproduire, n'avaient pas le droit de cultiver la terre non plus, puisque c'était de faire tomber des âmes spirituelles dans des pauvres végétaux très, très obscurs. Et donc vous voyez que il ne faut pas forcément idéaliser la théologie cathare et qu'il y avait des choses quand même très, très curieuses chez ces gens-là. Alors, qu'en est-il exactement? Est-ce que l'on peut aujourd'hui professer la réincarnation? Je dirais qu'il y a, plusieurs objections à ce sujet. Tout d'abord, une petite remarque purement de comptabilité. Je crois que c'est absurde d'un point de vue concret. Parce qu'en effet, si on imagine qu'on se réincarne dans une autre vie et que c'est une chance, puisque ça vous permet de mieux réussir votre existence, s'il faut plusieurs vies pour se sauver, c'est très injuste. Parce que d'abord, le nombre d'êtres humains sur la planète n'est pas stable. Alors, que se passera-t-il si tout à coup, par exemple, une guerre atomique détruit la moitié de l'humanité? Ça veut dire qu'il va y avoir la moitié des gens qui n'auront pas la possibilité de se réincarner. Alors que va-t-il devenir de ces gens-là, par exemple? Ou même quand ce sera la fin du monde, tous ceux qui n'auront pas tout à fait encore fini leur cycle de réincarnation, alors pour ces gens-là, ce sera affreux. Donc déjà, je crois qu'il y a un problème. C'est que le nombre d'êtres humains, si vous voulez, n'est jamais le même. Alors soit il augmente, alors à ce moment-là, il y a quand même des nouvelles âmes, et soit il est appelé à diminuer, et à ce moment-là, que faisons-nous de ces pauvres âmes qui n'ont plus assez de corps pour se réincarner? Ensuite, ce qui est assez curieux, c'est que ceux qui croient dans la réincarnation, très souvent parlent de leur vie antérieure. Alors on entend des gens comme ça, même des vedettes, qui disent « Ah ben moi, j'étais autrefois, j'étais un serviteur, ou j'étais un soldat, du doge de Venise, et puis après j'étais la couturière de Ramsès II, et puis ensuite j'ai été une courtisane sous Louis XIV. » Et donc les gens, ce qui est très étonnant, c'est quand ils disent en quoi ils ont été réincarnés, la plupart du temps, vous disent toujours des choses absolument extraordinaires. Personnellement, je trouve ça un petit peu louche, un petit peu douteux, d'autant plus que c'est évidemment incontrôlable. Alors, cela fait entrevoir, je crois, là un premier problème, c'est que le fait de croire dans la réincarnation d'une façon forte, hein, pas simplement comme ça parce que c'est une petite idée qui vous passe par la tête, le fait d'y croire sérieusement, d'une certaine façon, ça fait sortir de la vie présente. Et du coup, beaucoup de ces gens qui ont des vies très banales aujourd'hui, s'invente une sorte de passé extraordinaire qui fait rêver, au moins. Eh bien, je crois que c'est assez dangereux, parce que je pense qu'il est préférable d'essayer de faire de sa vie aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire plutôt que de se raccrocher à un fantasme qui serait que, il y a je ne sais pas combien de siècles, on aurait eu soi-même une vie extraordinaire. Et puis enfin, ça pose quand même tout cela un problème assez grave, je crois qu'il y a la notion de personnalité. Si effectivement on se réincarne, alors on est quoi, nous, là-dedans? On est une sorte de chose qui change de personnalité? Et comment peut-on être à la fois charpentier au Maroc, serviteur de Ramsès II, ou je ne sais quoi? Finalement, il y a là, si on croit dans la réincarnation, une sorte de réduction fondamentale de ce qu'est le fond de l'âme humaine, en quelque sorte, qu'il faut dégager non seulement du corps, puisque le corps devient une chose jetable, mais aussi de la personnalité même. parce que la personnalité va changer lors d'une réincarnation dans l'autre. Et alors, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, je crois que chez beaucoup de ceux qui prêchent justement la réincarnation, il y a en fait une notion très, très, très réduite de l'âme humaine et personnelle. Et même d'ailleurs dans l'Inde, il n'y a finalement pas d'âme humaine et personnelle. La réincarnation n'est qu'une sorte d'erreur dont il faut apprendre à se débarrasser pour enfin redécouvrir que l'on n'est pas une âme personnelle, justement, mais que l'on est une partie du grand tout. Alors effectivement, le christianisme, lui, à tort ou à raison, enseigne normalement que l'âme du bébé qui vient de naître est une âme neuve et que ce n'est pas une âme d'occasion. Et que le petit bébé qui est fait, il est tout neuf, que c'est un bébé neuf, entier, complet, qu'il a un corps neuf, une âme neuve, une intelligence neuve, une liberté neuve, et que tout ça forme une personne unique, originale, et qui fait un tout. Le christianisme, à tort ou à raison, enseigne que la personnalité n'est pas une illusion, mais que c'est tout ce qui fait justement la personne qui est sauvée pour l'éternité. Alors c'est vrai qu'il y a là, je crois, quelque chose d'assez important, c'est que dans le christianisme, ce n'est pas un petit morceau tout à fait indifférencié de mon âme qui sera sauvé, c'est tout ce que vous êtes vous, entièrement, ce que vous êtes vous, là, aujourd'hui et maintenant, votre personne, avec tout ce que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, c'est tout ça qui est aimé par Dieu et qui est sauvé par Dieu. Et il n'y a pas dans une existence humaine, je crois, dans la pensée chrétienne, de choses qui seraient des détails, en quelque sorte. Dieu, quand Dieu nous aime, il ne dit pas simplement « j'aime ton âme et je déteste ton corps », ou il ne dit pas « j'aime ton âme et je me fiche complètement de ta personnalité ». Dieu nous aime comme nous sommes. Et je crois que c'est la même chose. Quand nous aimons nos enfants, nos conjoints, nous ne disons pas « je n'aime que son âme et je me fiche du reste », ou alors « je n'aime qu'une parcelle non personnelle qu'il y aurait en lui ». Nous aimons la personne tout entière et nous assumons ses qualités et ses défauts. Alors, je crois qu'effectivement, le problème, c'est de savoir, quand on croit dans la réincarnation, il faudrait poser la question suivante à ceux qui y croient. Quel est le critère qui va faire que quelqu'un se réincarne ou pas ? C'est ça la vraie question. Et si vous posez cette question-là, vous vous rendrez compte que nécessairement, et ça a toujours été le cas dans toutes les religions qui ont toujours professé la réincarnation, il y a nécessairement, à un moment donné, la notion de jugement. C'est-à-dire qu'on se réincarne si on n'a pas bien réussi sa vie, justement. Et puis, alors, il y a en général aussi l'idée que l'on va se réincarner plus ou moins bien, suivant ce que l'on a fait, c'est-à-dire qu'il y a une pesée, et que ceux qui ont été très bons vont se réincarner, comme en Inde, dans les castes supérieures, et ceux qui se réincarnent dans les plus pauvres sont ceux qui ont fait des erreurs et des bêtises, des atrocités dans une vie antérieure. Et donc, je veux dire que dans la réincarnation, il y a toujours nécessairement la notion de jugement. Et ensuite, si l'on demande, mais alors quand va cesser cette réincarnation ? Parce que dans toutes les philosophies, religions qui prêchent la réincarnation, aucune ne dit comme les jeux vidéo, vous avez 3 vies et puis après c'est fini. Il y a une succession très nombreuse de réincarnations. Et alors quand ça s'arrête, ça ? Et là le message est toujours le même, c'est de dire, eh bien ça s'arrête le jour où l'âme a été suffisamment purifiée. Le jour où on est arrivé à un degré suffisant de perfection, de spiritualité, et à ce moment-là, enfin, on est libéré de la réincarnation. Et c'est là le paradoxe. C'est que pour beaucoup de gens, la réincarnation est une bonne nouvelle. Alors que pour toutes les religions qui, depuis l'histoire de l'humanité, ont cru dans la réincarnation était une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire une catastrophe. Et le but de la religion était non pas de se réincarner, mais d'arriver à échapper à la réincarnation. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours là-dedans, si on croit dans la réincarnation, nécessairement, à un moment donné, la notion de jugement. C'est-à-dire qu'il faut, il y a toujours l'idée sous-jacente qu'il faut y arriver, qu'il faut réussir, qu'il faudrait arriver à un certain point, qu'il faudrait réussir sa vie. Il y a toujours cette notion-là. Et c'est bien ça, les gens qui disent « Ah, ça me rassure qu'il y a une autre vie parce que si je n'ai pas bien réussi la mienne », donc ils partent dans l'idée qu'ils auraient dû réussir leur vie, et qu'il y a une instance de jugement qui vient leur dire « Madame, monsieur, votre vie là sur terre, c'était quand même pas très bon, et donc il va falloir que vous refassiez votre copie. » Et je crois que ça, c'est fondamentalement opposé au message de l'Évangile. Parce que justement, l'Évangile, ce n'est pas ça. L'Évangile, c'est la grâce. L'Évangile, c'est le pardon. L'Évangile, c'est le salut. Et l'Évangile, c'est de dire, comme dit Paul, « Mais de toute façon, vous êtes tous pécheurs, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Personne d'entre vous ne peut prétendre être arrivé à la spiritualité totale. Donc nous sommes tous pécheurs, mais nous sommes tous sauvés. Dieu a enfermé tout homme dans le péché pour les sauver tous. C'est-à-dire que Dieu nous sauve, nous. Il ne nous demande pas de réussir notre vie. Il nous demande de faire ce que nous pouvons. Il ne nous demande pas d'arriver à la perfection spirituelle. Il nous demande d'accepter d'être aimés. Et je crois que ceux qui veulent, qui sont attirés par la réincarnation, sont des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Alors bon, on a le droit puisqu'on est pécheur, on peut aussi avoir ce péché-là, mais ça veut dire qu'on ne leur a pas assez fait comprendre la notion de la grâce. C'est-à-dire que Dieu vous aime et Dieu vous sauve comme vous êtes aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de recommencer, il n'y a pas besoin de se réincarner. Vous êtes, vous, un trésor. Et quand Dieu vous regarde, il dit, voilà, vous êtes une personne unique. Vous avez, comme vous êtes né tel jour, vous serez mort tel jour. Et ça, c'est une merveille de l'humanité. C'est quelque chose que j'aime et que je garde. Le problème est là, effectivement. Et tout le message de l'Évangile, c'est bien ça, celui de la grâce de Dieu, et non pas du jugement. Et puis il y a encore un autre problème. C'est le problème du statut du corps et de la dimension physique. C'est qu'en effet, si on commence à prêcher la réincarnation, alors en fait, le corps devient une sorte de chose un peu jetable et secondaire. Au mieux, pas intéressante, au pire, mauvaise. C'est-à-dire que toutes les doctrines, toutes les religions qui ont professé la réincarnation ont toujours dévalorisé le corps. Et que le but de la réincarnation, ce serait donc de se libérer du corps. Comme Socrate, au moment où il doit mourir et boire la ciguë, invite tous ses amis et il dit « C'est merveilleux, enfin je vais être libéré de ce corps qui est pour moi la prison de mon âme. » Eh bien le Christ, au moment de mourir, ne dit pas que c'est une chose formidable. Sauf d'après ce pseudo-évangile de Judas grotesque et gnostique, mais dans nos évangiles, le Christ, au moment de mourir, il pleure et il dit que c'est quand même très embêtant. Voilà. Et quand son ami Lazare meurt, il pleure aussi. Et il ne dit pas « Réjouissons-nous, voilà enfin quelqu'un qui est libéré de la vie terrestre. » Alors, dans la réincarnation bouddhiste, eh bien, effectivement, la réincarnation n'est pas une grâce, c'est une punition. Et dans le bouddhisme, en tout cas dans ces religions de l'Inde, c'est justement ça peut-être qui fait la grande différence avec la foi chrétienne, c'est qu'on n'est pas dans la grâce, on est dans la rétribution. Et c'est pour ça que je crois que fondamentalement, la réincarnation est absolument incompatible avec la foi chrétienne. Parce qu'on ne peut pas tout bricoler et adapter. On touche là une question fondamentale qui est liée à plein d'autres. Parce que c'est lié à la question du jugement, de la valeur du corps, de la valeur de l'âme et de l'individu. Et que finalement, peut-être au-dessus de tout ça, ceux qui croient dans la réincarnation, finalement, manquent de confiance dans le salut de Dieu. C'est une insulte au salut de Dieu, une insulte à la grâce. C'est un manque de foi dans la possibilité qu'a Dieu de nous sauver, nous, tels que nous sommes. Et en fait, ceux qui sont dans la réincarnation restent dans une idée de jugement par les œuvres. Voilà. Donc on est dans le cadre d'une religion qui, à mon avis, est justement ce contre quoi l'Évangile a toujours lutté. Si le salut est offert par Dieu, pourquoi aurions-nous besoin d'autres vies? À quoi est-ce que cela nous servirait? Alors me direz-vous maintenant, dans la Bible, qu'en est-il? Eh bien, dans la Bible, c'est un peu compliqué parce que on peut trouver certaines traces de croyance dans la réincarnation. Je vais vous donner le seul verset, c'est dans l'évangile de Jean qui est la base de ceux qui prétendent y croire. C'est dans l'évangile de Jean, lors de la naissance, lors de la guérison de l'aveugle né, les gens disent à Jésus, pourquoi est-il né aveugle? Est-ce que c'est de sa faute ou pas? Et Jésus dit, non, s'il est né aveugle, ce n'est ni de sa faute à lui, ni de celle de ses parents. Alors les gens disent, pour que ça puisse être sa faute à lui, qu'il naisse aveugle, ça suppose qu'il ait pu faire une faute avant d'être né, et que par conséquent, il était réincarné. Je ne pense pas que le Christ ait voulu dire une chose pareille, mais en tout cas, je ne nie pas entièrement qu'il est possible qu'il y ait eu dans un judaïsme populaire aussi certaines tendances à croire dans la réincarnation. On parle aussi de Élie. Vous savez, on demande parfois si Jean-Baptiste ou Jésus serait la réincarnation de Élie, du prophète. Et donc, on pourrait voir là des traces encore de cela. Mais là encore, ça n'est pas évident, parce que Élie était plutôt considéré comme n'ayant pas été mort, et plutôt qu'en ayant été mort et réincarné. Élie a été enlevé au ciel dans un char de feu, et donc dans le judaïsme, c'est plutôt l'idée que Élie n'aurait pas été mort et qu'il pourrait revenir. Mais finalement, peu importe. Je dirais peu importe ce que dit la Bible, quelle importance. Je crois que le Christ, lui, en tout cas, il insiste plutôt sur la résurrection. Et il dit que cette résurrection, c'est quelque chose qui se joue aujourd'hui et maintenant. C'est ça, ce passage du dialogue entre Jésus et Marthe dans la résurrection de Lazare, où il dit « Je suis, moi, la résurrection et la vie. C'est aujourd'hui que ça se passe. » Et ce n'est pas pour plus tard, pour une autre vie, pour une réincarnation. C'est aujourd'hui que Dieu est une puissance qui peut sauver ta vie tout entière. Et donc, je crois que le Christ recentre sur ce qui est intéressant dans notre vie. Et il dit que la résurrection, c'est maintenant et que d'une certaine manière, il ne faut pas trop se préoccuper de l'au-delà. Et peut-être que le plus dangereux dans ces croyances de réincarnation, c'est que d'une certaine façon, ça aspire l'âme vers le néant. C'est-à-dire que ça démobilise, ça dévalorise la vie présente. Ça a tendance à lâcher prise, à dire ben, finalement, allez, j'abandonne. Là, j'ai raté, je laisse tomber, je ferai mieux la prochaine fois. Et ça, c'est très dangereux. Alors que le Christ insiste plutôt pour dire, allez, c'est aujourd'hui que tu peux te convertir. Et aujourd'hui, tu peux, aujourd'hui, même si tu es dans ta dernière heure, tu peux accueillir le Seigneur. Et le christianisme, je crois, incite justement à ne pas non plus négliger la souffrance d'aujourd'hui de mon prochain. Contrairement à ce qui se passe en Inde, quand on voit les gens pauvres, on se dit c'est tant pis pour eux, ils ont dû pécher dans une vie antérieure, donc laissons-les. Ils payent par leur souffrance des péchés passés et ils se réincarneront mieux la prochaine fois. Et moi je crois que le christianisme a raison quand il dit mais non, c'est intolérable de voir quelqu'un qui aujourd'hui souffre et là il faut l'aider et il faut le soulager, le soigner. Oui, effectivement, je pense que même si la réincarnation était vraie, eh bien, nous devrions tout faire comme si elle n'existait pas. Et qu'il faudrait en fait en faire abstraction et d'apprendre à vivre l'instant pour l'instant. Alors, tant qu'à faire d'être dans les croyances farfelues, j'aimerais mieux être dans celles que professait Nietzsche. Vous savez que le philosophe Nietzsche professait ce qu'on appelle l'éternel retour. Il disait que la vie est cyclique et qu'on va revivre indéfiniment la même vie. Bon, pourquoi pas pendant qu'on y est hein. Mais néanmoins, je trouve que Nietzsche, il y a quelque chose d'assez fort là-dedans. Son idée, c'était de dire « Vivez chaque instant comme ayant un poids éternel d'importance. » Parce que, finalement, vous le revivrez une éternité de fois. Donc je ne crois pas à l'éternel retour de Nietzsche, mais je crois qu'effectivement, il ne faut pas se démobiliser du présent pour investir dans un futur hypothétique, ni se désintéresser du présent pour essayer de fonder sa personnalité sur un passé probablement réinventé. Et que la réincarnation est quelque chose qui pollue la possibilité de l'être humain de s'engager dans le monde et de considérer sa vie d'aujourd'hui. C'est aussi une façon, je crois, de rester dans une sorte d'égoïsme fondamental qui consiste à se préoccuper de soi-même et de penser que chacun doit gérer sa propre vie et la réussir. Au contraire, je crois que le message de l'Évangile est justement une bonne nouvelle, que cette bonne nouvelle, c'est de dire « ne craignez rien, n'ayez pas peur, parce que vous êtes aimés, parce que vous êtes sauvés ». La réincarnation, c'est une mauvaise réponse. Enfin, pour moi, c'est une mauvaise réponse à une bonne question, à la question de la vie éternelle et du salut. Oui, je crois qu'on peut y croire, mais je crois que dans ce cas, on perd ce qu'il y a de plus beau et de merveilleux dans le message de l'Évangile, qui est que nous sommes dorénavant et déjà aimés et sauvés, et ceci entièrement, entièrement nous-mêmes. Nous sommes aimés et sauvés, le salut est offert par grâce, indépendamment de nos œuvres, parce que Dieu nous accueille et il nous aime. Alors pourquoi chercher ailleurs ce que le Christ nous donne gratuitement ? Amen.